Chapitre 30. Dimanche 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, l'après-midi. Une gigantesque saucisse avec une bouche souriante qui s'applique du ketchup d'une main et lève le pouce de l'autre trône sur le toit du fast-food. Eric commande un burger frites, s'installe sur une des chaises hautes, près du comptoir étroit contre la fenêtre, et regarde par la vitre embuée. Il y a un serrurier de l'autre côté de la rue. Dans sa décoration de Noël, des lutins hauts comme trois pommes voisinent avec différents coffres-forts, serrures et clés. Eric ouvre sa bouteille d'eau minérale, boit une gorgée, puis appelle chez lui. Il entend sa propre voix sur le répondeur l'inviter à laisser un message. Il raccroche et appelle sur le portable de Simone. Elle ne répond pas, et quand la messagerie émet un bip, il dit « Salut Simone, je voulais seulement te dire que tu devrais accepter la protection policière, parce que Joseph Eck a vraiment l'air très en colère contre moi. » C'est tout. Son estomac vide le lance. Il prend une bouchée du hamburger. Une profonde fatigue le gagne. Il enfonce la fourchette en plastique dans les frites croustillantes et repense au visage de Yona lorsqu'il avait lu la lettre de Joseph à Evelyne. Comme si la température avait chuté d'un coup. Ses yeux gris clairs étaient devenus glaciales, d'une intensité farouche. 4 heures plus tôt, Yona avait téléphoné pour dire qu'ils avaient de nouveau manqué Joseph. Il était bel et bien dans la cave, mais s'en était échappé. Rien ne permettait de penser que Benjamin y était aussi. Au contraire, les résultats préliminaires des analyses ADN indiquaient que Joseph était resté seul tout le temps. Eric tente de se rappeler le visage d'Evelyne et ses mots exacts quand elle avait compris que Joseph était retourné à la maison. Il ne pense pas qu'elle ait délibérément omis de leur parler de la pièce secrète. Elle l'avait simplement oublié. Ce n'était qu'au moment où elle avait réalisé que Joseph était retourné à la maison pour s'y cacher, qu'elle s'était souvenue de la cache. « Joseph Eck me veut du mal », pense-t-il. « Il me hait. Il est rongé par la jalousie. Il s'est imaginé qu'Evelyne et moi avons une relation sexuelle et il est prêt à tout pour se venger. Mais il ne sait pas où j'habite. Dans la lettre, il exige qu'Evelyne le lui dise. « Tu vas me montrer où il habite », avait écrit Joseph. Il ne sait pas où j'habite. Si Joseph ne sait pas où j'habite, ce n'est donc pas lui qui s'est introduit chez nous et a traîné Benjamin dehors. Il prend une autre bouchée de son hamburger, s'essuie les mains sur la serviette et tente une nouvelle fois de joindre Simone. Il faut qu'elle sache que ce n'est pas Joseph Eck qui a enlevé Benjamin. Il ressent un bref soulagement, même s'il doit maintenant recommencer, tout reprendre depuis le début. Eric sort une feuille, écrit le nom d'Aïda, se ravise et la froisse. Simone doit forcément se souvenir d'autre chose, se dit-il. Elle a dû voir quelque chose. Elle avait été interrogée par Yona Lina, mais rien d'autre ne lui était revenu. Il s'était trop centré sur Joseph, sur la coïncidence de sa fuite et de l'enlèvement de Benjamin. Maintenant, tout ça semble presque étrange. Ça ne colle pas du tout, il le dit depuis le début. La première effraction chez eux s'était produite avant la fuite de Joseph. C'est un tueur en série, il a le goût du meurtre. Enlever quelqu'un ne cadre pas avec le schéma de Joseph. La seule qu'il veut enlever, c'est Evelyne. Il fait une fixation, c'est elle qui motive chacun de ses actes. Le téléphone sonne. Il pose le hamburger, s'essuie de nouveau les mains et répond sans regarder l'écran. Eric Maria Barque ? Il entend un crépitement sourd. Allô ? Insiste Eric. Soudain, il entend une voix faible.
« Papa ?»
Chuintement du panier à frites plongé dans l'huile bouillante. « Benjamin ?» Un hamburger est retourné sur la plaque de cuisson. Un bruit fracassant retentit dans le téléphone. « Attends, je n'entends rien !» Eric se fraye un chemin à travers le flux de nouveaux clients et sort sur le parking. La neige tournoie dans la lumière jaune des réverbères. « Benjamin ?»
« Tu m'entends ?»
demande Benjamin d'une voix qui semble soudain très proche. « Où es-tu ? Dis-moi où tu es !»«
Je ne sais pas, papa. Je ne comprends rien. Je suis enfermé dans le coffre d'une voiture qui roule depuis des heures. »«
Qui est-ce qui t'a enlevé ?»«
Je me suis réveillé ici. Je n'ai rien vu. J'ai tellement soif. »«
Tu es blessé ?»«
Papa !»
dit-il en pleurant. « Je suis là, Benjamin. »«
Qu'est-ce qui se passe, papa ? »
Sa voix est faible et apeurée. « Je vais te retrouver, » dit Eric. « Est-ce que tu sais où on t'emmène ?»«
J'ai entendu une voix, comme à travers un tissu épais, juste au moment où je me suis réveillé. C'était quoi déjà ? Quelque chose au sujet de... une maison, je crois. »
« Dis-moi en plus, quel genre de maison ?»«
Non, pas juste une maison. Une maison hantée. »«
Où ça ?»«
On s'arrête, papa. La voiture s'est arrêtée. J'entendais pas. »
dit Benjamin d'une voix épouvantée.
« Je ne peux plus parler. »
Il perçoit un étrange remue-ménage, un craquement, puis le cri soudain de Benjamin, sa voix stridente et mal assurée. Il semble complètement terrorisé.
« Laissez-moi tranquille, je ne veux pas, pitié, je promets de... »
Puis c'est le silence. La communication est coupée. Des flocons de neige poudreuse tourbillonnent sur le parking devant le fast-food. Eric regarde le téléphone, mais n'ose pas s'en servir. Il ne veut pas risquer de bloquer un nouvel appel de Benjamin. Il attend devant la voiture, espère que Benjamin va rappeler, tente de se répéter la conversation dans sa tête, mais perd sans cesse le fil. L'écho lancinant de la peur de Benjamin résonne dans sa tête. Il comprend qu'il doit avertir Simone. Une ligne de feu arrière rouge sinue vers le nord et se fend telle une langue de serpent. À droite en direction de l'université et de l'E18, et à gauche en direction de l'hôpital Karolinska et de l'E4. C'est l'heure de pointe, et des milliers de voitures sont prises dans le flot ralenti de la circulation. Eric sait qu'il a laissé ses gants et son bonnet à l'intérieur du fast-food, à côté de son hamburger, mais il ne veut pas y retourner. Dans la voiture, ses mains tremblent à tel point qu'il n'arrive pas à insérer la clé de contact. Il est obligé de se servir de ses deux mains. La chaussée grise miroite sous la neige humide. Il recule dans l'obscurité et tourne à gauche sur Valhallawegen. Eric se gare sur Debbelgatan et descend à grands pas vers Lundmakergatan. Il entre dans l'immeuble et monte l'escalier. Curieusement, il se sent comme un étranger. Il sonne, patiente, entend des pas, le petit cliquetis du Judas. La porte se déverrouille de l'intérieur. Eric l'ouvre et entre dans le vestibule obscur. Simone a fait quelques pas en arrière. Elle est dans le couloir, les bras croisés sur la poitrine. Elle porte un jean et un chandail bleu. Elle a l'air très résolue. « Tu ne réponds pas au téléphone, » dit Eric.
« J'ai vu que tu avais appelé, » dit-elle à mi-voix. « C'était important ?»«
Oui. » Son visage se décompose, dévoilant toute la peur et l'angoisse qu'il tentait à tout prix de dissimuler. Elle met la main devant sa bouche et le regarde fixement. « Benjamin m'a téléphoné il y a une demi-heure. »«
Oh mon Dieu !»
Simone s'approche.
« Où est-il »
demande-t-elle d'une voix inquiète. « Je ne sais pas. Il ne le savait pas lui-même. Il ne savait rien. »«
Qu'est-ce qu'il a dit alors ?»«
Qu'il se trouvait dans une voiture. »«
Est-ce qu'il était blessé ?»«
Je ne crois pas. »«
Mais qu'est-ce ?»«
Attends !» interrompt Eric. « Je dois emprunter le téléphone. Il y a peut-être un moyen de localiser la provenance de l'appel. »
« Tu vas appeler qui ?»«
La police. J'ai un contact qui... »«
Je vais en parler à papa. Ça ira plus vite. »
Elle prend le téléphone et il s'installe sur la banquette du couloir, dans l'obscurité. Il sent la chaleur qui réchauffe son visage.
« Tu dormais ?»
demande Simone.
« Papa, il faut que je... »« Eric est là. Il a parlé avec Benjamin. Il faut que tu localises l'appel. »« Je ne sais pas. Non, je n'ai pas... »« Il vaut mieux que tu lui parles. »
Eric se lève et fait un signe dissuasif de la main quand elle s'approche, mais prend malgré tout le téléphone et le porte à l'oreille. Allô ?
Dis-moi ce qui s'est passé, Eric,
dit Kenneth. Je voulais parler à la police, mais Simone dit que tu pourrais localiser la provenance de l'appel plus vite.
Il se pourrait bien qu'elle ait raison.
Benjamin a téléphoné il y a une demi-heure. Il ne savait rien, ni où il se trouvait, ni qui l'avait enlevé. À vrai dire, tout ce qu'il savait, c'était qu'il se trouvait dans une voiture. Et pendant qu'on parlait, la voiture s'est arrêtée. Benjamin a dit qu'il entendait des pas, et ensuite il a crié quelque chose, et puis plus rien. Eric entend les sanglots étouffés de Simone.
Il a téléphoné avec son portable ?
Demande Kenneth.
Oui.
Parce qu'avant il était éteint. J'ai déjà essayé de le localiser avant-hier, tu sais. Les téléphones émettent des signaux vers l'antenne relais la plus proche, même quand ils ne sont pas utilisés.
Kenneth explique rapidement que les opérateurs ont l'obligation d'aider la police en vertu des paragraphes 25 à 27 de la loi sur la téléphonie,
si la peine minimale encourue pour le crime commis est supérieure à 2 ans de prison. Eric l'écoute en silence.
« Quels renseignements peuvent-ils nous fournir ?» demande Eric.
« La précision varie. Ça dépend des antennes et des réseaux. Mais avec un peu de chance, nous aurons bientôt une indication de localisation dans un rayon de 100 mètres. »«
Dépêche-toi, il faut faire vite. » Eric raccroche et rend le téléphone à Simone.
« Qu'est-ce que tu t'es fait à la joue ?» demande-t-il.
« Quoi ? Ah, ce n'est rien, » répond-elle.
Ils se regardent, fatigués, vulnérables.
« Tu veux entrer, Eric ?» demande-t-elle.
Il hoche la tête, reste un moment sans bouger, s'extirpe de ses chaussures, puis entre. Il voit que l'ordinateur est allumé dans la chambre de Benjamin et s'y rend.
« Tu as trouvé quelque chose ?»
Simone s'arrête devant la porte de la chambre.
« Quelques emails entre Benjamin et Aïda. On dirait qu'ils se sentaient menacés. »«
Par qui ?»«
On l'ignore. Papa est dessus. »
Eric s'installe devant l'ordinateur.
« Benjamin est en vie, » chuchote-t-il en la regardant longuement. « Oui. »
Joseph Eck ne semble pas être impliqué.
« Tu l'as dit sur le répondeur, qui ne sait pas où nous habitons. » N'empêche qu'il a téléphoné ici, pas vrai? Donc il a très bien pu...
Ça, c'est autre chose.
Vraiment?
Le standard a transféré l'appel, explique-t-il. Je leur ai demandé de le faire lorsque c'est important. Mais il n'a pas notre numéro de téléphone, ni notre adresse.
Pourtant, quelqu'un a enlevé Benjamin et l'a embarqué dans une voiture.
Elle se tait. Eric lit le message d'Aïda dans lequel elle plaint Benjamin de devoir vivre dans une maison de mensonges, et ouvre ensuite la photo attachée. Une photo en couleur, prise avec un flash, la nuit, sur un coin d'herbe sauvage verdâtre qui semble descendre en pente douce vers une petite haie. Derrière la haie flétrie, on devine une clôture en bois marron. À la limite de la lumière vive, on entrevoit un panier en plastique vert et quelque chose qui pourrait être un carré de pommes de terre. Eric regarde attentivement. Essaie de comprendre l'objet de la photo, de distinguer s'il y a quelque part un hérisson ou une musaraigne qu'il n'aurait pas remarqué. Dans l'obscurité, derrière la lumière du flash, il tente de discerner quelqu'un, un visage, mais ne trouve rien.
« Quelle drôle de photo !» chuchote Simone.
« Aïda a peut-être simplement attaché la mauvaise image, » dit Eric.
« Ça expliquerait que Benjamin ait effacé le message. »
« Il faut qu'on parle de ça à Aïda. » Et puis de...
Le médicament de Benjamin, gémit subitement Simone.
Je sais.
Tu lui as fait sa piqûre mardi?
Sans attendre sa réponse, elle sort de la chambre et traverse le couloir jusqu'à la cuisine. Il la suit. Quand il franchit la porte, elle est debout près de la fenêtre et se mouche dans un essuie-tout. Eric tend la main pour la caresser, mais elle recule. Il sait exactement quand Benjamin a eu sa dernière piqûre. La solution injectable qui aide son sang à coaguler, qui le protège d'une hémorragie cérébrale spontanée, qui prévient des saignements potentiellement mortels, des saignements qui peuvent être causés par quelque chose d'aussi simple qu'un mouvement rapide. Je lui ai administré l'injection à 9h10, mardi matin. Il devait faire du patin à glace, mais au lieu de ça, il est allé à Tunsta avec Aïda. Elle hoche la tête et compte, le visage concentré.
Aujourd'hui c'est dimanche. « Il devrait avoir une autre injection demain ou après-demain, » chuchote-t-elle.
« Nous avons encore quelques jours avant qu'il y ait un véritable danger, » dit Eric pour la réconforter.
Il regarde son visage fatigué, ses jolis traits, ses taches de rousseur, son jean taille basse, sa culotte jaune qui dépasse de la ceinture. Il voudrait rester là, juste rester. Il voudrait dormir avec elle. En fait, il voudrait lui faire l'amour. Mais il sait qu'il est trop tôt pour tout ça. Trop tôt pour même essayer. Trop tôt pour commencer à espérer. « Je vais y aller, » marmonne-t-il. Elle hoche la tête. Il se regarde. « Appelle-moi quand Kenneth aura localisé l'appel. »«
Tu vas où ?»
demande-t-elle. « Je dois travailler. »«
Tu dors au bureau ?»«
C'est plus pratique. »«
Tu peux dormir ici ?»
dit-elle. Pris de court, il ne sait plus quoi dire. Mais le petit laps de silence suffit pour qu'elle interprète sa réaction comme une hésitation.
« Ce n'était pas une invitation, » se rattrape-t-elle. « Ne te fais pas d'illusions. »
« Rassure-toi. »
Tu t'es installé chez Daniela ?
Non.
Nous sommes déjà séparés, dit-elle en haussant la voix. Alors tu n'as pas besoin de me mentir.
D'accord.
Comment ça, d'accord ?
Je me suis installé chez Daniela.
Bien, chuchote-t-elle.
Oui.
Je ne compte pas demander si elle est jeune et belle et...
Elle l'est, dit Eric. Il va dans le vestibule, enfile ses chaussures, sort de l'appartement et referme la porte derrière lui. Il attend de l'avoir entendu fermer à clé et mettre la chaîne de sécurité, puis il descend l'escalier.